l'écologie intégrale au cœur du Pays Basque. Une émission proposée et réalisée par Jeanne Busson.
Bonjour et bienvenue dans notre émission L'écologie intégrale au cœur du Pays Basque. Nous retrouvons aujourd'hui Cathy Constant et Lisa Garay, auteurs de l'ouvrage Parcours naturaliste au Pays Basque et présidente de l'association Libre Cueillette qui développe des jardins partagés en milieu urbain. Alors expliquez-nous comment se fait l'acquisition des terrains.
Depuis le début de l'association, il y a environ 5 ans, nous cherchons un terrain public ou privé où nous puissions accueillir du public. Comme vous l'avez vu, nous ne travaillons pour le moment qu'au sein de structures fermées, pour des scolaires, des résidents en habitat collectif ou des tout-petits en crèche. Nous sommes toujours à la recherche d'un lieu qui soit libre d'accès pour y organiser nos activités. Nous avons fait une proposition à la mairie de création d'un jardin des 5 sens auprès d'une aire de jeu. Nous comptions le créer et l'entretenir sous la forme d'un jardin partagé ouvert au public. Mais ce projet, qui était en bonne voie en début d'année 2020, a été stoppé net par le Covid. J'espère qu'il verra le jour en 2021.
Alors, où se situent ces jardins ? Où est-ce qu'on peut les observer ? Et ça correspond à combien de surface ? Est-ce que vous avez ces données-là ?
À part la crèche du Rugne, tous ces jardins partagés se trouvent à Anglette. Leur surface va d'une 12 mètres carrés pour les crèches à 80 mètres carrés pour la résidence des terrasses de l'avenue gérée par le col.
Anglette, justement surnommée Ville-Jardin, dispose de nombreux parcs et jardins en tout genre pour se ressourcer, se divertir ou sortir des sentiers battus. Citation de la ville d'Anglette. Selon vous, quels sont les bienfaits à augmenter la végétation en ville ?
Alors, il faut d'abord faire un petit rappel. La population d'Anglette est passée de 21 000 habitants en 1968 à près de 39 000 habitants en 2020. Soit une croissance de 84% sur une période de 52 ans, elle a presque doublé. À titre de comparaison, Bayonne est passée dans le même temps de 42 000 à 52 000 habitants, c'est-à-dire 22%, et Biarritz passait de 26 000 à 24 000 habitants, soit moins 8%. Et donc les vergers, les potagers, les cressonnières, les prairies pâturées par le bétail et les champs de céréales que je voyais durant ma jeunesse, à Anglette, on laissait place à un habitat d'abord dispersé de maisons individuelles, puis de plus en plus concentré en résidences collectives. Ces dernières années, la mairie accorde des permis de construire à des promoteurs qui remplacent les villas avec jardins par des immeubles qui occupent tout l'espace disponible. L'objectif actuel de la ville d'Anglette continue d'être la densification de son habitat, justifiant ainsi les aménagements énormes qu'ont nécessité la mise en place du trambus, alors que venaient à peine de s'achever les travaux pour instaurer des voies de bus séparées. Certes, la limitation de la circulation automobile en ville est une bonne chose, de même que l'aménagement de pistes cyclables et de trottoirs plus larges. Toutefois, le réchauffement climatique qui s'accélère nécessite des mesures d'aménagement urbain encore plus ambitieuses, mais pas forcément technologiques. Pour limiter l'élévation de la température estivale en ville, la solution la plus facile à mettre en place sera de multiplier le nombre d'arbres le long des chaussées et contre les bâtiments et de les laisser croître naturellement sans restreindre ni leur hauteur ni le diamètre de leurs houppiers. Mais ces arbres, tout comme les humains, auront soif. La ville devra entreprendre de libérer au maximum la terre de ses revêtements imperméabilisants de bitume ou de béton. Sans doute devra-t-elle également revoir le réseau d'eau pluviale et aménager des mares et des bassins. L'Agence de l'eau a lancé en 2019-2020, prolongé en 2020-2021, un appel à projet national qui vise tout projet de désimperméabilisation et de végétalisation pour gérer les eaux de pluie des cours d'école, de collège, de lycée et d'université. Cette désimperméabilisation, accompagnée d'une végétalisation accrue, permettra aussi d'atténuer les effets des pluies torrentielles qui, à l'inverse, seront de plus en plus fréquentes en automne-hiver. La végétation freinera l'écoulement de l'eau et lui permettra de s'infiltrer dans le sol. Ainsi, on pourra éviter ou au moins limiter les inondations calamiteuses.
Comme on vient de voir, bien sûr, il y a vraiment des avantages à augmenter la végétation en ville, comme nous l'a présenté Cathy Constant et Lisa Garay, présidente de l'association Libre Cueillette et auteure du livre « Parcours naturaliste en Pays Basque ». Alors, quels sont les projets en cours pour cette année, fin d'année 2020-2021, malgré le contexte sanitaire compliqué ?
Les mesures gouvernementales imposées pour enrayer l'extension du coronavirus perturbent beaucoup les activités associatives. Les projets que nous avions en janvier 2020 se sont retrouvés bloqués pendant des mois. Alors que nous reprenions contact en septembre avec nos partenaires et que nous débutions le premier jardin partagé à la crèche AAFS, le confinement a de nouveau été promulgué en novembre. Compte tenu de cette immobilité forcée, Libre Cueillette a concocté cet été un nouveau projet intitulé BAB 2050, carnet de voyage d'anticipation. Il s'agit d'imaginer nos trois villes de Bayonne, Anglette, Biarritz, plus vertes d'ici 30 ans. Nous demanderons à des peintres d'imaginer la transformation possible des quartiers et à des animateurs nature de sonder les habitants sur leurs sentiments à l'égard d'une renaturation de leur environnement urbain. Nous espérons que la réalisation de ce projet rencontrera moins de problèmes que celle des jardins partagés. Dans le cadre d'un concours, les jeunes et les scolaires sont également sollicités pour imaginer la ville de demain.
Alors justement, le contexte sanitaire et socio-économique actuel a mis en évidence les fragilités de ce territoire, notamment vis-à-vis de la production maraîchère et fruitière. Pourquoi ?
Lors du dernier confinement, la ruée sur les magasins, comme si nous nous apprêtions à vivre en période de guerre, a créé une pénurie artificielle. Elle a surtout mis en évidence le peu de résilience des villes face à des coups durs et leur incapacité à assurer leur propre subsistance. Alors qu'autrefois le territoire d'Anglette permettait aux deux villes voisines de Bayonne et Biarritz de s'alimenter en légumes et fruits, le poisson arrivant des ports de Bayonne et surtout de Saint-Jean-de-Luz et la viande de l'intérieur du Pays Basque, les sources alimentaires des villes du Pays Basque se sont beaucoup délocalisées en même temps que les grandes surfaces tuaient le petit commerce. Face aux graves perturbations climatiques qui s'amorcent et aux perturbations économiques et politiques qui en découlent déjà, il est urgent de remédier rapidement à ce déséquilibre. Certes, les jardins partagés ne pourront pas nourrir le BAB, mais ils font partie des actions de sensibilisation de la population. Il va falloir relocaliser au maximum la production de nos ressources et en toute priorité celle de nos ressources vivrières.
Alors je pense évidemment peut-être aux personnes confinées qui ne sont pas dans une maison avec un jardin, qui sont en appartement et qui aimeraient apprendre un petit peu à jardiner et aussi qui seraient intéressées pour accéder à participer à un jardin partagé. Alors quelle serait la démarche ? Et aussi, si l'on souhaite installer une petite jardinière sur son balcon, quels conseils pourriez-vous donner ? Notamment, par exemple, choix des graines, exposition de la lumière, pas planter en fonction de la saison.
Sur Anglette, comme je l'ai dit, il n'y a pas encore de jardin partagé accessible au public. Il y a l'atelier jardinage et botanique de l'UTLA, que je co-anime à Tivoli à Anglette. Il existe un jardin partagé sur Biarritz au Serre de la Miladie qui est animé par l'association Biodiversité et trois jardins partagés sur Bayonne, un à la ZUP animé par l'association Graines de Liberté, un à Balichon sous la houlette de la MVC du centre-ville et le jardin partagé Maldane au square du Marquisat dans le quartier Saint-Esprit. D'autres petits espaces existent ici ou là, comme le jardin des remparts à Bayonne et les cultures en bac du Rouf au Forum à Bayonne avec les génies verts. Pour savoir ce qu'on pourrait planter lorsqu'on dispose seulement d'un balcon, eh bien, il existe beaucoup d'informations sur Internet. Bien sûr, pour le choix des graines et des plants, il est préférable de choisir du bio. Le premier confinement de début d'année a amené des voisins à s'assembler en collectif d'échange d'informations, de graines et de plants. C'est une sorte de jardin partagé virtuel qui est plus facile à mettre en place puisqu'il ne nécessite pas de terrain, mais seulement une ouverture vers les autres. J'en connais un sur mon brin, mais je suis sûre qu'il en existe d'autres. Des habitants en résidence ont aussi commencé à créer des jardins partagés dans leur parc, qu'ils cultivent entre voisins. Des vocations et des envies se sont éveillées grâce à l'afflux soudain de temps libre.
Alors, est-ce que vous souhaiteriez faire passer un message aujourd'hui aux auditeurs ?
J'avais beaucoup aimé le message du film « Demain » car il était positif. Il montrait que le changement peut se produire par le bas, par les gens eux-mêmes, sans attendre d'action de la part des édiles, qu'elles soient municipales, régionales ou nationales. Planter, c'est facile. Désimperméabiliser aussi. Consommer prioritairement local et bio, c'est influer fortement sur les pratiques paysannes en leur offrant un marché pour leur production. Acheter moins, acheter mieux, sans emballage, sans pesticides, sans transport depuis l'autre bout du monde, c'est protéger son environnement au quotidien, concrètement et simplement.
Alors, est-ce que vous pouvez nous partager une expérience personnelle, justement, dans votre rapport à la nature, vos observations que vous faites depuis des années? Est-ce que vous auriez des conseils et aussi un art de vivre que vous pourriez nous faire partager aujourd'hui?
Le siège de l'association Libre Cueillette est près de la Tour de l'Âne, sur un flanc du plateau de Parme occupé par l'aéroport, à Anglette. En cette saison, j'observe les oiseaux de passage qui viennent picorer les arbouses du jardin et les baies du Piracanta. Les pigeons se posent sur la chaussée après le passage des voitures pour picorer les glands et les châtaignes écrasées par les pneus. L'écureuil galope sur la pelouse rase et fonce chez un de mes voisins où il poursuivra sa collecte de provisions pour l'hiver. Les insectes butineurs se disputent les dernières fleurs de l'abélia et les fleurs d'arbustes méditerranéens comme l'arbousier, le citronnier, l'oranger. Ils profitent d'une dernière floraison du trèfle incarnat, de la menthe et de l'épervière. À la tombée de la nuit, les chauves-souris zigzaguent au-dessus de l'allée, engobant les insectes, et un peu plus tard, les chouettes hulottent se répondent d'un arbre à l'autre. La vie sauvage ne demande qu'à se répandre. La biodiversité à se restaurer, pour peu que nous lui en laissions le loisir.
Merci pour ce partage. Est-ce que vous souhaiteriez aussi nous partager un article de votre site, Le Monde de Cathy, où vous avez compilé des récits de voyage, des récits de balades et des documentaires naturalistes?
En août 2018, j'ai publié un texte sur la ville de Valence, où je me suis rendue en vacances sur la côte méditerranéenne espagnole. Je me suis particulièrement intéressée au sort du fleuve Turia, qui fut détourné à l'époque de Franco pour résoudre le problème des inondations récurrentes de cette grande ville. Je pense que pour mieux imaginer ce qui nous attend au Pays Basque d'ici 2-3 décennies, il est intéressant d'observer la situation chez nos proches voisins afin d'éviter de répéter les mêmes erreurs. Un autre article publié le 2 février 2020 et intitulé « Autosuffisance alimentaire à Béorlégui » se rapporte à une visite que j'ai faite chez un membre du collectif pour l'autonomie alimentaire dont Libre Cueillette fait partie. Je pense que le mode de vie de Gorka, Odey et leurs deux fils peut amener à réfléchir sur la physionomie de la terre que nous voulons laisser à nos enfants. À ce propos, j'ai beaucoup aimé le message de Pierre Rabhi avec son mouvement des colibris. Colibri s'est inspiré par un conte indien d'Amérique du Sud. Le puma voit passer un colibri avec une goutte d'eau dans le bec. Il dit « Mais qu'est-ce que tu fabriques avec cette goutte d'eau dans le bec ?» Et le colibri lui répond « Mais tu ne vois pas l'incendie qui brûle la forêt là-bas ? Mais qu'est-ce que tu comptes faire avec cette goutte d'eau ? C'est totalement inutile. Ah, moi, j'apporte ma contribution, même si elle est petite. Eh bien, ce sera toujours ça. »
Alors, une dernière question, comment rejoindre l'association Libre Cueillette et où participer au projet des jardins partagés ?
C'est simple. Il suffit de m'écrire à contact libre-cueillette.net. Je poste aussi des informations sur le site internet de l'association libre-cueillette.net. Et en ce temps de confinement, j'invite les auditeurs à visiter la rubrique du site intitulée « Projets en cours ». Il s'agit du projet de carnet de voyage d'anticipation BAB 2050 auquel les peintres amateurs petits ou grands peuvent participer dans le cadre d'un concours dont les modalités sont indiquées sur le site. Imaginez la ville de demain, c'est le premier pas vers sa transformation et notre propre mutation vers un nouveau style de vie à inventer.
Merci Cathy Constant et Elissa Garay, présidente de l'association Libre Cueillette et auteur du livre Parcours naturaliste en Pays Basque. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions et bonne continuation à vous dans tous vos projets. Merci.
Merci beaucoup.
Merci chers auditeurs, à la semaine prochaine pour un nouveau sujet. Bon lundi, bonne semaine à tous.
L'écologie intégrale au cœur du Pays Basque. Une émission proposée et réalisée par Jeanne Busson.